Bonjour mes frères et sœurs. Ce cantique, il a été écrit, certainement, par quelqu'un qui savait ce qu'est la véritable consécration. Vous savez, c'est une chose d'être chrétien. Ça n'est une autre d'être choisi par Dieu pour le servir. Je ne parle pas des ministères, je parle pour tous les chrétiens. J'aimerais faire avec vous plusieurs lectures. Je vous encourage à les noter, ces lectures. Beaucoup de chrétiens se privent de progrès, comme on va le lire dans 1 Pierre, au chapitre 2, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils entendent une prédication, ils savent que c'est biblique. Je pense que beaucoup de chrétiens sont capables de dire, tiens ça dans la prédication, c'est bien. Si je vous disais qu'on peut prier les morts, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? De suite, vous diriez, ah, c'est une fausse doctrine, c'est une abomination, c'est grave. Vous êtes d'accord? D'accord, bon. Mais ce n'est pas parce que vous connaissez la doctrine que vous avez compris ce que Dieu voulait que vous fassiez. Alors, on va faire quelques lectures. Si je vous demande de les noter, c'est parce que pour moi, c'est important. C'est important. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. On va faire normalement 4 lectures qui, bien sûr, se complètent. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Gardez la page, s'il vous plaît, on aura l'occasion d'y revenir. Dans Ésaïe, au chapitre 42, il y a une exhortation, un commandement, je ne sais pas ce que vous y mettrez derrière, et un enseignement. Ésaïe 42, versets 18 et 19. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Je le relis pour ceux qui ont un petit peu plus de mal à trouver. Sourds, écoutez. Vous comprenez bien que ce n'est pas les sourds physiques, c'est des sourds spirituels. Les chrétiens qui n'entendent plus, qui ne sont pas sérieux avec ces choses. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu. Aveugle, comme le serviteur de l'Éternel. Matthieu chapitre 6. Évangile de Matthieu, c'est un texte dans le Sermon sur la montagne, un texte d'une gravité. On le lit, mais on pense que ce n'est pas pour nous. C'est clair. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton cœur. Regardez bien la suite. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Je relis la partie qui m'intéresse. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Si vous prenez le temps de réfléchir à cette parole du Seigneur Jésus, je vous assure que ça vous fera lire la parole de Dieu d'une autre façon. La quatrième lecture, c'est dans Lévitique au chapitre 8. On la lira tout à l'heure. Elle est très très importante. Ça fait partie de ces textes qui sont difficiles. Et un chrétien, un véritable disciple, il peut dire à un moment donné, comme les apôtres, lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, après qu'une grande foule écoutait une parabole, la parabole de l'ivraie, la parabole du semeur, les apôtres se sont approchés de Jésus, ils ont dit, « Seigneur, explique-nous la parabole. » Un chrétien, un vrai chrétien, il apprend, il connaît, il y a des choses qu'il n'a pas encore apprises, la révélation est progressive, c'est vrai, mais un véritable chrétien, il va à l'église tous les dimanches. C'est ça ? Ouais. Un véritable chrétien, il veut connaître absolument sa volonté. Il veut discerner la volonté de Dieu. Et ce n'est pas facile, parce que la Bible dit que pour discerner la volonté de Dieu, eh bien, il faut offrir son corps à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, et surtout ne pas se conformer au siècle présent. C'est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors il peut y avoir une méga frustration dans le cœur de croyants. D'un côté, que ta volonté soit faite, mais ils sont dans l'impossibilité totale de la discerner parce que ce qu'ils font les empêche. C'est écrit dans Jérémie, leur œuvre les empêche de revenir à Dieu. Et c'est un véritable drame. Alors bien sûr qu'il y en a un, croyez-moi, qui pousse pour que ces choses restent dans l'état. Croyez-moi qu'il y en a un qui est intéressé pour que la lumière que nous avons soit de véritables ténèbres. Vous allez me dire, mais c'est ce verset, je ne l'ai pas bien compris. Vous allez le comprendre à la fin. Ce que Dieu dit, est-ce que c'est important ce que Dieu dit à l'Église, mais ce que Dieu te dit, est-ce que vous êtes capable, mais c'est simple ce que je vous dis, de dire, voilà ce que le Saint-Esprit me montre en ce moment. Est-ce que vous êtes capable de dire, oui, je comprends pas tout, mais je sais, je perçois, je ressens profondément, c'est pas une question d'émotion, c'est spirituel. Je perçois dans mon cœur ce que Dieu veut que je fasse. Alors c'est sûr que si ce que Dieu dit, vous le croyez à moitié, si ce que Dieu promet, vous ne l'attendez pas, quoique vous savez les promesses, même si vous ne les connaissez pas, laissez-moi vous dire qu'elles s'accompliront. C'est pas grave si vous ne les connaissez pas. Par contre, les commandements, ça vaut la peine d'y réfléchir. Et ce que Dieu me demande, bien sûr, je le fais. C'est quand même bizarre. C'est quand même étrange. Qu'une fois qu'on appartient à Jésus, on est obligé de supplier les gens de se consacrer. Qu'on supplie les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous rappelez quand Paul dit aux Corinthiens qui étaient moitié convertis, à certains, je le dis à votre honte, quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une parole qui est adressée à des chrétiens, parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils croient en Dieu, ils sont dans le temple de Corinthe, mais ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez cette parole que Jean-Baptiste a dit, et qui pourrait être prêchée dans toutes les églises. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Le Seigneur, il est au milieu de vous. Et quand on en arrive à ce stade où on doit supplier les gens de se consacrer, c'est qu'il y a vraiment un aveuglement. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui a besoin d'être expliqué. Et je ne dis pas que ça vient des chrétiens. Je pense que ça vient de beaucoup plus haut et qu'on a intérêt à dire, mais Seigneur, il faut que ta lumière éclaire mon cœur. Il y a des choses, on le sait. Par exemple, je vous donne un exemple. Entre autres, Jésus était ému de compassion. Il regardait la foule qui était comme un troupeau qui n'a pas de berger. Qu'est-ce qu'il ajoute ? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous êtes d'accord ? Donc, tous les chrétiens, nous prions, régulièrement ou régulièrement, mais nous prions pour que des ouvriers se lèvent. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous l'avez fait cette semaine? Allez, vous l'avez fait cette semaine? Peut-être que vous avez oublié. Est-ce que ça... ne dramatisons pas non plus, ne soyons pas des hypocrites. Est-ce que ça peut arriver d'oublier? Bien sûr, moi le premier j'oublie. Mais mes frères et sœurs, ça fait partie des choses que l'on devrait méditer. Oui, je veux qu'il y ait des pasteurs dans toutes les églises, des anciens dans toutes les églises. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Donc, ça c'est une parenthèse pour indiquer qu'un chrétien, normal, voit quand même des choses que Dieu demande, qui sont complémentaires de l'action du Saint-Esprit. Jésus aurait pu dire, écoutez, c'est pas la peine que vous priez, le Saint-Esprit s'occupera de déceler les hommes. Oui, mais pour cela, l'Église doit participer. On est participant de la nature divine. Est-ce que c'est important pour vous? Il faut ouvrir les yeux. Quand Jésus dit, quand Dieu dit dans l'Ancien Testament, mais aveugle, ouvrez les yeux. Est-ce que je vois ce que Dieu veut que je voie? Est-ce que je réalise ce que Dieu veut que je comprenne vraiment? Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi? Quand Jésus dit à cette église, je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux, il faut commencer à dire, mais Seigneur, je veux voir. Vous rappelez de ses disciples, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus était à côté d'eux, il les rejoint. C'est le jour de la résurrection, ils étaient dans le désespoir total, dans une froideur totale. Et à des moments, il faut recommencer à zéro. Comme quand Jésus a dit à Thomas, Thomas, regarde mes mains. Regarde mes mains. Et Thomas est reparti à zéro, malgré ce doute qui était en train de se transformer en incrédulité. Parce que moi, je fais quand même une grande différence entre le doute et l'incrédulité. Mais Jésus a dit, ne sois pas incrédule. Il était en train de perdre la foi. Et bien sûr, le fait de voir le corps de Jésus ressuscité, la marque des traces des clous, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mes frères et sœurs, si le Seigneur te dit ce matin, mais regarde! Regarde ce que j'attends de toi. Parce que c'est facile de dire, oui, bien sûr, il faut que celui-ci, il se consacre davantage, c'est normal, il est pasteur. Mais moi, qu'est-ce que je vois? Vous rappelez, j'ai souvent parlé de Zacharie chapitre 4, quand Dieu dit dans ce chapitre, un des versets les mieux connus, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par mon esprit. Nous le savons, l'œuvre de Dieu, elle ne se fera que par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? C'est pas possible autrement. L'œuvre de Dieu, elle se fera par le Saint-Esprit. Mais dans ce chapitre, Dieu dit à Zacharie, qui a besoin d'être restauré, encouragé. D'ailleurs, il y a 8 visions dans Zacharie. On voit bien que ces 8 visions s'adressent au peuple de Dieu qui a besoin d'être encouragé. Parce qu'on a besoin d'être encouragé. Oui ou non? Donc, ils ont besoin d'être encouragés. Et Dieu dit à Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vous ai dit l'autre jour que j'ai compté les questions dans le livre de Job. Parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Et je vous ai dit qu'il y avait 290 questions dans le livre de Job. 290. Et Dieu en pose 78 à Job. Qui n'ont rien à voir avec son problème en plus. Job, est-ce que tu sais comment j'ai dénoué les Pléiades? Comment j'ai créé l'Orion? Vous connaissez la grande constellation? Connais-tu les lois du ciel? Franchement, on était quand même un peu loin de son problème. Oui ou non? Et Dieu lui pose la question, est-ce que tu connais les lois du ciel? Moi, j'ai regardé cette semaine dans les constellations d'Orion, dans la constellation d'Orion. Puisque Dieu en parle 3 fois, est-ce qu'on peut s'y intéresser? On l'a chanté, les cieux proclament. J'ai regardé, tiens, je vais regarder quelles sont les étoiles qu'il y a dans la constellation d'Orion. Dans la constellation d'Orion, il y a une étoile qui s'appelle Bételgeuse. C'est une étoile qui est 1300 fois plus grosse que le Soleil. La Terre, elle fait 12 000 km de diamètre. Le Soleil, il fait 1 470 000 km de diamètre. Vous voyez, donc si vous mettez un petit poids qui représente... Écoutez bien, vous allez comprendre, je ne sors pas de mon sujet. La Terre est un petit poids. Le Soleil est un ballon de basket. Dans le soleil, s'il était creux, vous pourriez mettre 22 000 fois la Terre. Oui, ça commence à faire une grosse boule. Bételgeuse, elle est grande comme votre cuisine, à côté de ballon de foot. Et je me suis dit, mais connais-tu les lois du ciel? Vous savez, c'est des questions que Dieu pose. Bien sûr qu'on peut ne pas s'y intéresser, on peut ne pas y répondre, mais c'est quand même des questions que Dieu pose. Vous êtes d'accord? Je ne sors pas du sujet. Je ne suis pas en train de tomber dans la science. Je suis en train de répondre à des questions. Et j'ai dit, Seigneur, mais... Et j'ai regardé la luminosité de ces étoiles, parce que chaque étoile est lumineuse en fonction du gaz, etc. Et je suis tombé sur un site qui parle de la luminosité des étoiles. Écoutez bien. Et ces savants disaient que la lumière des étoiles comme Bételgeuse, comme Sirius, Antares, tout ça, des étoiles, des grosses, grosses boules. Normalement, il devrait faire le jour, la nuit, à cause de la lumière qui vient sur la Terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est évident. Et les savants disent, mais c'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi la nuit fait nuit? Il devrait faire jour comme le jour. Il dit, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Connais-tu les lois du ciel? Le Seigneur, oui, les cieux proclament. Je pensais à ça ce matin, quand on chantait, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Oui, la nuit, il devrait faire jour si les choses étaient normales. Mais Dieu est tout puissant. Il a créé le jour, il a créé la nuit. Connais-tu les lois du ciel? Alors il y a des choses. Mais est-ce que c'est intéressant ça? Ça vous intéresse ou non? Ou vous pouvez dire, reviens à ton sujet sur la consécration parce que. Mes frères et sœurs, Dieu pose des questions. Mais qu'est-ce que tu vois? Si tu ne connais pas, si tu ne te rappelles pas de la luminosité de Bételgeuse, c'est pas grave. Si tu ne sais pas où est la constellation d'Orion, c'est pas grave. Mais. Est-ce que je vois ce que Dieu veut que je voie? Ces questions, c'est Dieu qui les pose à Job. Job Dieu n'est pas en train de se moquer de Job. Vous le comprenez bien. C'est vrai que moi, ces questions, je dis, mais à quoi ça sert? Mais quand Dieu pose des questions, il veut susciter une soif pour qu'on puisse dire, mais qu'est-ce que moi, je vois? Vous allez comprendre plus vite. On va sortir de la constellation. Comment ça se fait? Écoutez bien, là c'est sérieux. Écoutez bien. Comment ça se fait qu'un chrétien converti depuis quelque temps, depuis quelques années, je vais vous dire depuis 6 ans, vous comprenez pourquoi tout à l'heure, un chrétien converti qui a 6 ans de conversion, comment ça se fait qu'il n'ait pas encore compris qu'il y a une différence entre la grâce et la sainteté? La grâce, c'est extraordinaire, la grâce. Si vous êtes perdu, si vous êtes rétrograde, si vous êtes un pécheur perdu, je parle à ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous ne savez pas trop où vous en êtes, moi je vous le dis, convertissez-vous. Ne venez pas me demander à la fin de la réunion, priez pour que je me convertisse, je vous dirai non. Convertissez-vous. Dans la parole de Dieu, le message, c'est convertissez-vous. Est-ce que vous comprenez? Donnez votre vie à Jésus-Christ. La grâce est extraordinaire. N'importe quel pécheur, n'importe quel rétrograde peut rentrer dans le royaume de Dieu, mais rentrer dans le royaume de Dieu par la grâce infinie du Seigneur, c'est une chose. Servir Dieu dans son Église, c'est autre chose. Il n'y a pas besoin de la grâce, il y a besoin de la grâce et de la sainteté. Et quand des chrétiens de quelques années de conversion n'ont pas encore compris qu'il y a une différence entre la grâce et la sanctification, c'est que la lumière qui est en eux est ténèbre. Et bien sûr que le diable fait tout de son côté pour nous maintenir dans les ténèbres. Et c'est malheureux de voir que chaque fois que Dieu a demandé quelque chose, que les gens ont fait les choses comme Dieu l'a ordonné, de suite après, il y a des personnes qui se sont introduites et qui ont ajouté quelque chose ou retranché quelque chose afin qu'on ne puisse pas vivre ce qu'on a lu tout à l'heure dans Pierre, à savoir qu'on doit faire des progrès pour offrir à Dieu une maison spirituelle. Dans Lévitique au chapitre 8, il y a tout un enseignement sur la consécration. Vous pourriez peut-être me dire, mais monsieur Gault, la consécration, c'est sérieux. La grâce, c'est merveilleux. Un pécheur peut rentrer. Je vous le répète, si vous êtes perdu, convertissez-vous. N'attendez pas demain, parce que demain, votre cœur sera peut-être endurci. Vous allez me dire, oh, demain, en 24 heures, oui. Mais vous pouvez avoir une épreuve terrible qui va vous décourager et vous endurcir. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais si le Seigneur le dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne dites pas, ben on verra, j'attends demain ou dans 6 mois, je serai à la retraite. Et si vous n'y arrivez pas à la retraite hein? Et si vous avez 3 épreuves avant la retraite, moi je vous dis que votre cœur sera endurci. Et que vous pourrez passer à côté de la faveur de Dieu. Dans le Lévitique 8, je bénis Dieu pour les chrétiens qui m'ont encouragé à ce qu'on partage dans l'étude la consécration. Alors je prends un exemple. Vous connaissez Lévitique 8 ? C'est le livre, je sais, que vous affectionnez par-dessus tout, que vous prenez quand vous êtes en vacances, surtout le Lévitique. Hein, surtout le Lévitique. Dans Lévitique au chapitre 8, il y a tout un enseignement sur la consécration. Ça va être le message de ce matin, mais vous comprenez bien qu'avec ce qui est à l'intérieur, il vaut mieux que je le décortique un peu. Au chapitre 9 du Lévitique, il y a la probation de Dieu parce qu'ils vont faire les choses comme Dieu le demande. Vous êtes d'accord? Voilà, il y a l'approbation de Dieu. Quand on fait les choses comme Dieu le demande, Dieu bénit. C'est ce qu'on a lu dans Pierre. Approchez-vous, faites des progrès, désirez le lait spirituel et pur. Vous connaissez ça, on l'a lu, hein? D'accord? Afin que vous croissiez, de cette façon, on pourra avoir une maison spirituelle. Le problème, c'est pas avoir une église de telle dénomination, avec tant et tant de personnes, avec tel et tel moyen. Tout ça, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de développer une maison spirituelle. Quand vous lisez la parole de Dieu, à force de lire, vous vous observez ce qui se passe au chapitre 10. C'est que chaque fois que Dieu demande quelque chose, Dieu trouve des hommes ou des femmes, bien sûr, qui vont le faire. Mais juste après, l'ennemi va tout faire. Tout. Pour que les choses ne se fassent pas comme Dieu l'a ordonné. Mais c'est compliqué. C'est simple et compliqué. Regardez, Dieu a choisi Israël. Vous êtes d'accord? Dieu a choisi Israël parce qu'il fallait que le Seigneur Jésus naisse dans un pays. Il aurait pu naître en Occitanie. Mais Dieu a choisi Israël. Vous êtes d'accord? Donc Dieu a choisi Israël pour être une nation de sacrificateurs. C'est pour ça que j'ai pris le texte de Pierre où nous devons offrir un saint sacerdoce. Vous allez voir combien ce chapitre est lié. Dieu choisit Israël pour qu'il le serve. Est-ce qu'Israël va servir Dieu? Non. Israël ne voudra pas. Eux, ils veulent le miel, les concombres, le lait, le bon vin, etc. C'est dans Deutéronome, si on a le temps, on le lira tout à l'heure. Et quand ils ont eu tout ça, Dieu va leur dire, Israël, tu es devenu gras, replet, épais, et tu as abandonné Dieu. C'est dommage, parce que tout ce que Dieu nous donne devrait être une occasion, au contraire, de le servir davantage. Moi, je ne sais pas. Vous ne le voyez pas comme ça, vous? Si Dieu vous bénit, ce n'est pas une occasion de le servir davantage? Il y a 15 jours, on m'a donné 2 livres. On me donne souvent des livres à lire pour voir ce que je pense. Bon, je les ai lus. On m'a donné 2 livres sur la bénédiction de Yahébet. Vous connaissez la bénédiction de Yahébet? Dans les chroniques. Vous savez que dans les chroniques, il y a 29, premier livre, il y a 29 chapitres. Il y a 15 chapitres de noms. J'en ai parlé l'autre jour quand on a présenté le petit Paul. Vous vous rappelez? Et tout d'un coup, parmi ces centaines de noms, il y a un gars qui exprime une prière que Dieu va exaucer. Si tu me bénis, si tu tends de mes limites, etc. Et Dieu l'exauce. J'abrège. Mais les livres en question aujourd'hui sont des livres. Si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis. Mais quand Dieu nous bénit, c'est pour qu'on soit une source de bénédiction. Bien sûr que Dieu peut nous bénir pour notre plaisir personnel. C'est biblique que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions, etc. Mais la véritable bénédiction, c'est je reçois pour pouvoir donner, me donner. Tu seras une source de bénédiction. C'est pour ça, faites attention à tous ces livres. Et le problème, c'est que vous devriez, avant de lire un livre, connaître la Bible. Il faut connaître la Bible, il faut la lire avec les yeux du cœur. Hier, j'avais 5 minutes, je me suis dit, tiens, tu vas regarder une... Je vous le dis pour que vous compreniez, parce que c'est lié, c'est pas, je sors pas. Et hier, je lisais, je me suis dit, tiens, les anges. Je fais une étude sur les anges, je regarde, vous savez, avec Internet, vous avez tout. Et tout, vous le verrez. Et tous les textes parlent des anges, que les anges sont des hommes, des mâles. Et moi, j'avais un verset qui m'est venu à l'esprit, dans Zacharie au chapitre 5, il est parlé d'anges qui sont des femmes. On va le dire parce que vos yeux m'indiquent que l'AVC revient. Non ! Vos yeux, vous avez lu le livre de Zacharie ? Non, mais je l'ai vu, il y a des yeux, ça ne m'a pas plu. Hein. À la sortie, il risque d'avoir une rixe dans la rue. Zacharie, chapitre 5, verset 9. Je vous le dis, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez bien qu'il faut faire attention, ce n'est pas parce que vous lisez des belles prédications sur Internet qu'elles sont bibliques. Regardez, Zacharie 5, verset 9. « Je levai les yeux et je regardais, et voici, deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. » Elles enlevèrent les fas entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui me parlait, « Où emportent-elles les fas ?» Il me répondit, donc l'ange, qui devait les connaître, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. » Donc, voyez, Dieu a permis, que, en tous les cas, que certains anges apparaissent sous la forme de femmes avec des ailes, même si c'était des ailes comme la cigogne. Voyez, je vois à vos yeux que ça va un peu mieux. Revenons à Lévitique, chapitre 10. Mes frères et sœurs, l'ennemi, il fait tout pour détruire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous le savez? Et la consécration, ça ne s'obtient pas avec des séminaires, avec des hommes de ouin qui imposent les mains. Ça ne marche pas comme ça. Il y a longtemps que l'onction serait dans les églises si les hommes, soi-disant ouin, avaient imposé les mains et amené l'onction. Je vous assure, mes frères et sœurs, l'ennemi, il fait feu de tout bois. Dieu indique ce qu'est la consécration. Il approuve parce que Aaron, alors comme je disais, il n'a pas pu trouver le peuple d'Israël, il a trouvé la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il n'y a qu'une famille qui a répondu, la famille d'Aaron. Ça veut dire que sur tout le peuple, il n'y a qu'une famille, Aaron et ses fils, qui ont accepté d'être choisis pour la consécration. Au chapitre 10, deux enfants d'Aaron, c'est terrible, hein. Et c'est là, on le voit de suite. De suite, pourtant, Dieu a manifesté sa gloire, le feu de Dieu, comme on l'a chanté. Vous l'avez chanté avec cœur, ce cantique, qu'un feu nouveau s'allume. Vous croyez que ce feu, il peut venir? Eh oui, il peut venir. Et Dieu est plus intéressé que nous. Lévitique 10. Les fils d'Aaron, mais juste après, hein, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger ce qu'il ne leur avait point été ordonné. Tous les chapitres avant, vous avez en boucle, il fit selon ce que Dieu avait ordonné, ce que Dieu avait ordonné, ce que Dieu avait ordonné. Quand vous regardez Moïse, c'est tout le temps presque, on se demande, parce que Dieu veut qu'on comprenne qu'il faut faire les choses comme Dieu le demande. Et là, ils prirent du feu. Pourtant, c'était les enfants d'Aaron choisi, enfin, Dieu avait trouvé une famille qu'il pouvait utiliser pour que le feu de Dieu se manifeste, pour que l'approbation de Dieu se manifeste. Ils n'ont pas terminé la journée que les fils d'Aaron s'autorisent à faire à leur façon. Mes frères et sœurs, il y a une façon d'offrir à Dieu un saint sacerdoce, une église spirituelle, c'est de faire comme Dieu demande dans les actes. Il persévérait dans l'enseignement, c'est ce qu'on fait. Ce matin, j'enseigne un peu plus que d'habitude. Il persévérait dans l'enseignement des Écritures. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore, les chrétiens de l'Église primitive? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partageaient le pain et le vin. Ils persévéraient dans l'enseignement des Écritures, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est extraordinaire. Quand on a le même esprit, quand on est à la croix, la communion fraternelle, c'est une bénédiction. Le problème, c'est que beaucoup d'églises sont en vrac pour la simple et unique raison que les chrétiens ne sont pas au calvaire. Oui, mais dans mon église, moi, c'est pas facile. Mais oui, parce que les chrétiens ne sont pas à la croix. Quand les chrétiens sont à la croix, laissez-moi vous dire qu'il y a une vraie communion fraternelle dans l'église. Il faut persévérer. Je veux persévérer dans l'enseignement. Moi, je vous assure que vous m'encouragez à le faire. Mais il faut persévérer dans l'enseignement. Et il faut pas. Mais c'est pour ça, ne regardez pas n'importe quoi. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Sur vous voyez les deux livres. Le frère qui m'a passé, il m'a dit, monsieur Gaulle, lisez ces livres, vous allez voir, ils sont super. Et moi, j'ai dit, mais non, ils sont pas super, ils sont dangereux. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est la bénédiction. La bénédiction, c'est toujours pour être en bénédiction aux autres. Et là, voyez les fils d'Aaron, parce qu'ils s'imaginent quand tout va bien, que tu peux t'autoriser à faire ce que tu veux. Non, je persévère dans l'enseignement de la parole. J'aime la parole. Je la serre dans mon cœur. Je lis et je vais relire. Moi, vous savez ce que c'est mon prochain défi? Je vous le dis, vous allez penser que je suis un orgueilleux. Non, c'est de connaître le livre de Lévitique par cœur. Parce que je suis sûr que c'est un secret, ce livre. C'est un secret. Vous savez, il y a des choses que vous trouvez à 50 cm du sol, il y a des choses, il faut les creuser. Il y a des pierres précieuses, elles sont à 200, 300 mètres. Le livre de Lévitique, c'est profond, mais je crois que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Parce que croyez-moi, mes frères et sœurs, ça n'a pas changé. Dieu a du mal à trouver des hommes, des femmes, des diacres, des diaconesses, des pasteurs, des anciens qui vraiment se consacrent et on n'a rien à ajouter. On persévère dans l'enseignement, on persévère dans la communion fraternelle. On a besoin de communion fraternelle. Vous aimez la communion fraternelle? Vous vous rendez compte que moi j'entends presque toutes les semaines. Monsieur Gros, j'ai plus envie d'aller dans mon église, ils sont tous méchants, ils sont tous jaloux, ils sont tous fatigants. Et je sais que c'est des gens qui souffrent, ils vont dire, c'est pas de la médisance. Pourquoi? Parce que les gens se sont éloignés de Dieu. Et parce qu'on a intégré dans le temple des choses qui n'allaient pas. Vous avez vu dans Ézéchiel au chapitre 8, marquez-le ce chapitre, méditez-le. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment on peut arriver à faire des trucs pareils? Vous l'avez lu le livre d'Ézéchiel, chapitre 8? Regardez ce qu'ils ont fait. Les anciens du temple, les pasteurs. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Et c'est pour vous expliquer que le diable fait tout pour détruire l'Église. Vous le croyez? Le diable, il fait tout. Alors, pour peu qu'on désobéisse et que nos oreilles ne s'ouvrent pas et que nos yeux ne s'ouvrent pas, mais on contribue. Et la lumière qui est en nous est ténèbre. On ne s'en rend pas compte. Ézéchiel, chapitre 8, verset 5. Mais non, mais quand vous lisez ça, vous dites, c'est pas possible, je rêve. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. C'est impressionnant toutes les fois où Dieu dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Lève les yeux. Je levais les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion, à la porte de l'autel, à l'entrée. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Ils ont fabriqué une idole de la jalousie, et ils l'ont mis à l'entrée, pas au temple, pas à l'autel, mais en fait, ils l'ont mis dans le temple. Tu te dis, mais c'est pas possible. Vous comprenez? Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Et regardez la suite. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne. C'est Dieu qui parle, c'est sérieux. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Et vous pourrez lire la suite. Regardez verset 12, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens, c'est les pasteurs de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Vous voyez comme ils avaient une grande communion. Hein. L'Éternel a abandonné le pays. Mes frères, c'est grave. Alors, il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est dans Jérémie. Alors, Jérémie, regardez ce verset. Moi, c'est un verset qui m'a fait mal au cœur. Franchement, je vous le dis, quand je l'ai lu pour la première fois avec mon cœur, c'est un verset qui m'a blessé, parce que je sais que c'est vrai et que c'est grave, et que ça concerne les pasteurs. Jérémie 23, verset 15. Je ne sais pas si ce sont des versets sur lesquels vous vous arrêtez. Enfin, moi, en tant que pasteur, je sais qu'il me faut m'y arrêter. Jérémie, chapitre 23, verset 15. C'est surtout la deuxième partie, mais on va lire le verset en entier. Mes frères et sœurs, vous voulez voir le feu de Dieu descendre dans l'Église et convaincre de péché? Eh bien, il va falloir maintenant que vous écoutiez bien la suite. Jérémie 23, verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car, écoutez bien, frère, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ce verset. Car, c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ça fait pas mal au cœur? Normalement, l'impiété, Si je suis cohérent, l'impiété, elle ne devrait se répandre que par les impies. Oui ou non? Et là, vous voyez, mais c'est sévère. Mes frères et sœurs, je vous dis ça pour que vous compreniez bien que la lumière que nous croyons avoir, pensons avoir, peut être ténèbre si nous ne demandons pas à Dieu, mais Seigneur, mais explique-moi ce qu'est vraiment la consécration. Explique-moi cette parabole. Explique-moi ce texte. Et je vous dis ça. Je pense que le Saint-Esprit me conduit pour que vous compreniez, mes frères et sœurs, que le problème ne vient pas souvent des chrétiens. Le problème, il vient de nous. La Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Et moi, je frémis quand je pense à ce qui se passe à cause des pasteurs, à cause des anciens. Et je le dis devant Dieu, c'est pas. Je ne suis pas en train de réclamer compte. Moi, j'aime le mouvement, moi, j'aime les pasteurs, moi, j'aime tout le monde. Mais le problème, c'est une question de droiture. Je n'introduirai rien à ma guise. Même si je suis un homme de Dieu, je prendrai le temps. Comme David qui n'a pas pris le temps de ramener l'arche, vous vous rappelez? Il a voulu ramener l'arche. Qu'est-ce que vous en pensez les anciens? Mais David, ce que tu demandes, mais c'est super, fais-le! Et il l'a ramené, chez les Philistins, on transportait l'arche sur un bœuf, sur un char avec des bœufs. Et bien voilà, on ramène l'arche, et vous savez la suite. On avait oublié que pour porter dans l'arche, il y avait des petits anneaux. Ça ne se voit pas, des petits anneaux. Il y aurait 3 ou 4 anneaux là, vous ne les verriez pas. Mais qui s'occupe des détails? Je dis, mais on s'en fiche des détails, tu ne vas pas nous prendre la tête avec des petits trucs. Nous, on veut voir la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, si on veut voir la gloire de Dieu, il faut respecter les détails. Et moi, je l'ai entendu en convention, en pastorat, j'ai entendu dans les églises. Mais monsieur Gou, ce qui est important, c'est l'intention. Du moment que vous faites quelque chose pour Dieu, Dieu le bénit. Si vous le faites de tout votre cœur, ce n'est pas vrai. La preuve. Ce n'est pas vrai. Dieu bénit sa parole. Il faut faire les choses comme Dieu nous l'a ordonné. Vous avez vu les fils d'Aaron déjà que Dieu n'a pas pu trouver Israël. La tribu de Lévi, il n'a pas voulu, il n'y a qu'une famille. Mais ça nous montre que Dieu va avoir du mal à trouver quelqu'un qui se consacre. Alors on arrive au chapitre, parce qu'il faut avancer, on arrive au chapitre 8. Dans le chapitre 8 du Lévitique, il y a tout un tas de sacrifices. Vous savez, pour le pardon des péchés, vous l'avez lu ça, pour le pardon des péchés, il fallait un sacrifice, un taureau, un bœuf. Il fallait un taureau. Un sacrifice expiatoire. Il y a plusieurs sacrifices dans la parole de Dieu. Vous y êtes à Lévitique? Vous me promettez de le lire, ce livre? Hein? Vous le lirez? Bon. C'est sûr que la première fois, ça risque même de vous endormir. Alors, dans le Lévitique, le chapitre 8 est tout un chapitre sur la consécration. Alors, on va lire à partir du verset 14. Vous le lisez avec moi, il faut le lire. Je sais qu'il y a des églises, on ne le lira pas parce que les gens ne comprendront rien, mais moi je vais essayer de vous l'expliquer. Lévitique chapitre 8, verset 14, c'est le sacrifice de consécration. Il fit approcher le taureau expiatoire. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et a mis avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour. Alors, j'en profite pour vous dire que chaque fois que vous voyez le mot « autel », vous pouvez le transposer en pensant à la croix. L'autel, dans l'Ancien Testament, nous rappelle toujours que les sacrifices avaient lieu à l'autel. Jésus-Christ est mort à la croix. L'autel, c'est tout le temps l'image de la croix. Et je vous assure, vous ferez des progrès en lisant le Lévitique et en regardant qu'est-ce qu'il fallait faire à l'autel. L'autel tout autour, il purifia l'autel, il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Deuxième sacrifice. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang tout sur l'autel, tout autour. Il coupa le bélier par morceaux, il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, il brûla tout le bélier sur l'autel. Et ce fut l'holocauste, donc un sacrifice d'expiation, le sacrifice d'holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Troisième sacrifice, il fit approcher, c'est la sainte consécration, il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel, tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Regardez bien, ce fut le sacrifice de consécration. La consécration, elle commence là, que là. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et l'agita du côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Cinquième étape. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, car l'onction, elle n'est pas sur la chair, l'onction, elle est sur les dons que Dieu nous donne. Vous voyez, ça c'est un détail, mais c'est quand même, c'est pas de la rigolade. Hein. Sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. On va s'arrêter là, ça suffit. Mes frères et sœurs, je l'ai dit, la grâce, elle sauve. Gloire à Dieu. Mais pour qu'il y ait l'onction de Dieu, il faut la consécration. Et il faut bien faire la différence, je le répète, parce que je pense que certains chrétiens n'y voient plus rien spirituellement. Pour eux, la grâce, Seigneur, fais grâce, ta grâce. On n'entend que ça. Seigneur, on pourrait dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ce soir, dans ma maison, que ton nom soit sanctifié. Demain, au travail, par ma bouche, que ton nom soit sanctifié. Sans la sanctification, nul, personne. Ça ne peut pas être plus clair. Personne. On peut dire, Seigneur, je veux que mes enfants voient ta gloire. Seigneur, que ma famille voit ta gloire. Mes frères, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, même s'il y a la grâce. Et elle y est, la grâce. C'est évident. Vous savez, c'est une chose d'être sauvé. C'est merveilleux d'être sauvé. Moi, j'ai chanté avec larmes. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je sais que si on est là ce matin, c'est parce qu'on est super meilleur que les autres. C'est ça, non? Si on est là ce matin, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Nous le savons tous très bien. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Merci. Et je dirai merci jusqu'à mon dernier souffle. Et j'espère que le dernier mot que je prononcerai sur la terre, ce sera merci, Seigneur. Mais mes frères et sœurs, la grâce, c'est merveilleux. Mais la sainteté, c'est une grâce aussi. Un immense privilège. Et quand vous voyez le sacrifice de consécration, il est lié à ces trois sacrifices sanglants, parce qu'il n'y a pas que les sacrifices sanglants. Trois sacrifices sanglants, et vous avez vu tout ce qu'on va mettre dans les mains d'Aaron. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors commençons par le début. Un gros sacrifice. La consécration, écoutez-moi mes frères et sœurs, je vais être très bref. Vous comprenez tout ce que je vous dis? Vous le comprenez? La consécration, ça commence par un grand sacrifice, un taureau, le plus grand sacrifice. Pour être consacré, il faut être sauvé. Vous allez me dire, non mais tu plaisantes? Mes frères et sœurs, dans les églises, de plus en plus de gens qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance servent le Seigneur. Et au nom de la grâce, on va les attirer. Mes frères et sœurs, pour être consacré, il faut être sauvé. Et vraiment sauvé. Il y a un grand sacrifice. Cela nous bouleverse toujours. La première des choses, de toute façon, pour servir Dieu, c'est ce taureau expiatoire. Il y a une expiation. Le sang est répandu. Il est mort à notre place. Il y a cette affaire de sang qui est répandu. Ce sang, bien sûr, nous projette toujours, vous avez compris, à la croix. Quelqu'un a payé. Là, c'était un taureau, bien sûr. Mais ça nous rappelle que quelqu'un d'autre devait un jour payer à ma place. Quel que son nom soit béni, il a payé à notre place. Deuxième sacrifice, le sacrifice de l'Holocauste. Parce que c'est une chose d'être sauvé. Un bélier entièrement consumé, pareil. Et c'est ça que je voudrais que vous expliquiez. Le salut, c'est une chose. La consécration, il y a un deuxième sacrifice. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus nous demande d'entrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Vous comprenez? C'est une chose d'être sauvé. Ça n'est une autre d'être choisi et d'accepter d'être choisi par le Seigneur pour être dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on ne met pas des idoles. Si on prend tous les textes de l'Ancien Testament, il y a de quoi pleurer. Sérieusement. Parce que bon, on pourra dire ce qu'on veut, mais quand Dieu est obligé de dire « afin que je m'éloigne », vous avez vu comment a fini le temple de Jérusalem, hein, mes frères et sœurs. Et c'est les hommes qui l'ont bien cherché, croyez-moi. Donc il y a une grâce d'être sauvé et beaucoup de croyants sont sauvés. Nous allons prendre la Sainte Cène, ça nous rappelle le premier sacrifice, le grand sacrifice. Mais au-delà de ce sacrifice, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Parce qu'il faut choisir, vous voyez, Dieu voulait toute la nation, je répète. Et puis il n'y a eu qu'une famille, et même dans la famille, il y a des enfants qui se sont complètement loupés parce que je vous dis, parce que les gens ils s'imaginent qu'on peut faire à notre guise. Il faut un chandelier tout en or. Il faut quelque chose d'entièrement consacré. Ça coûte cher un chandelier en or de 49 kilos 900. J'ai calculé 1 700 000 euros. Si on voulait faire le chandelier, ils l'ont fait, je sais, en Israël, pour le temple. Mais aujourd'hui, le chandelier coûte 1 700 000 et quelques mille euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être un homme de Dieu, il y a un prix à payer. Un grand prix. Un prix à rester à l'autel. Vous lirez la suite. Mais là, je m'arrête à cette pensée. Le salut, c'est bien. Vous pouvez ce matin dire, plusieurs pourraient dire, presque tout le monde, je l'espère, je suis sauvé. Mais combien peuvent, vraiment, en toute honnêteté, reprendre ce cantique? Vous pouvez le mettre? Est-ce que, sincèrement, pas du tout dans un esprit de culpabilité, de morbide, mais d'honnêteté devant Dieu, et dire, c'est mon joyeux service. C'est un honneur, comme on l'a lu dans 1 Pierre, pour les uns c'est un honneur, pour les autres ça va être un scandale. Vous l'avez lu avec moi? C'est mon joyeux service, d'offrir un joyeux mon corps et mon esprit. Deuxième strophe, s'il vous plaît. J'abandonne ma vie, sans regret. Ni frayeur à ta grâce infinie. Troisième strophe. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Vous êtes d'accord? Ouais. Quatrième strophe. Ça va très bien. Viens Jésus, sois mon maître par ton sang racheté. À toi seul je veux être pour l'éternité. On voit bien que là c'est au-delà du salut. Vous comprenez? On est dans le service. Merci Sophie. On est dans la consécration. Je l'ai dit, ce cantique a été écrit par quelqu'un qui s'était vraiment consacré. Il n'y a pas que le salut. Il n'y a pas que le grand sacrifice. Il y a le bélier de l'Holocauste. Je dois rester avec lui. Tu m'as choisi. Est-ce que vous entendez, mon frère, ma sœur? Dieu te choisit pour être un instrument à sa gloire. Le troisième bélier, je fais vite parce que ça serait trop long et compliqué pour certains, c'est vrai. Le troisième sacrifice est un bélier de consécration. Là, on ne répand pas le sang, qui est l'image de la mort de Jésus-Christ. On applique le sang sur le sacrificateur. Le sang est l'image de la mort, mais le sang aussi est l'image de la vie divine. On met le sang sur l'oreille, on met le sang sur le pouce, on met le sang sur l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a ce qu'on appelle une prérogative divine. Notre vie appartient au Seigneur. Quand il y a le sang, qu'est-ce que vous voyez, vous, quand on vous parle du sang? La première chose. L'amour. Non? Franchement, on prend un verre de vin, qu'est-ce qu'on voit? L'amour de Dieu. Oui ou non? J'exagère ou non? Dès que vous prenez le vin, qui représente, vous voyez, Seigneur, c'est ton amour, c'est ton amour. Et la consécration, c'est, voilà, mon oreille, ça ne remet pas en question le salut. Je parle de gens qui vont pouvoir dire que ton feu descende, que la flamme brûle, qu'il se passe quelque chose. Parce que vous avez vu, dans le chapitre 9, il y a le feu de Dieu qui est descendu. Dans le chapitre 10, il y a un autre feu qui est descendu, mais ça n'a pas fait le même effet. Et nous, on veut le feu de Dieu, on veut l'approbation de Dieu. Voilà, le sang, il y a le côté de la vie. Je te mettrai du sang sur l'oreille. Mes frères et sœurs, la première chose sur laquelle on devrait veiller, c'est notre oui. Mon oreille appartient au Seigneur. J'avais lu, je vous l'avais raconté l'autre jour, la formation des anciens, le témoignage d'un ancien, c'était du temps de Wajmani, vous voyez. J'avais lu ça dans un bouquin, et ils étaient quatre dans un compartiment, il y avait trois inconvertis qui voulaient jouer à la belote. Et puis il y avait le chrétien. Ils ont demandé, on n'est que trois, est-ce que vous pouvez jouer à la belote avec nous? Et le chrétien a dit, je ne peux pas. Comment vous ne pouvez pas? Je ne peux pas. Mes mains ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur Jésus. Et ça a permis à cet homme de témoigner et de les amener à la croix. Ça m'a dit non? Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, nous ne venons pas légalistes. Écoutez-moi, on n'est pas légalistes. On a le souci de dire, Seigneur, montre-moi. Plusieurs, vous avez dit, mais Seigneur, montre-nous, éclaire-nous. Seigneur, oui, il n'y a pas que le salut. Oui, il n'y a pas que la grâce. Il y a la sainteté. Et la sainteté, Dieu ne transigera pas. Un homme peut revenir à Dieu 50 fois, il a péché. Bon, ce cinéma, c'est pas, ça va pas, c'est pas sérieux, parce qu'un jour ça finit par décrocher. Mais je le lisais ce matin, heureux l'homme à qui la transgression est remise, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Quelle grâce quand tout est réglé. Dieu n'imputera pas l'iniquité aux gens qui ont demandé pardon. Gloire à Dieu. Mais mes frères et sœurs, ça suffit de faire des allers-retours tout le temps, tous les dimanches matin, et dire Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton sang, merci, pardonne-moi, je ne suis pas contre, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais mes frères et sœurs, la Sainte Cène, ce n'est pas que pour tous les dimanches essayer de rattraper la main de Jésus. J'espère que je tiendrai jusqu'à la semaine prochaine. Mes frères et sœurs, c'est un peu plus sérieux que ça l'Église. L'Église, ce n'est pas que le salut. Le dimanche matin, ce sont des gens qui se rassemblent et qui disent « Oui, merci pour ton sang qui a été répandu pour moi. Mais ton sang, il va m'asperger l'oreille, mes mains, mes pieds. Je vais marcher dans tes voies. » Oui, je pense qu'on peut marcher dans les voies du Seigneur. Mais ça dépendra de notre soif. Ça dépend que de notre soif. Dieu ne vous oblige pas. Ne vous méprenez pas par rapport à ma teneur, à ma prédication. Ne dites pas « Mais il nous force. » Dieu force personne. Ce qu'on fait, on le fait de bon cœur. C'est mon joyeux service. Je le fais de bon cœur. Mon oreille, elle t'appartiendra. Et je ferai de plus attention aux choses que j'écoute. Je termine parce que le retourne. Vous avez vu le quatrième sacrifice? Ce n'est pas un sacrifice sanglant. C'est un sacrifice d'offrande. Vous avez vu la graisse? La queue, toute la graisse. Vous avez vu verset 26, il prit la corbeille, des pains sans levain, placés devant l'Éternel, un gâteau sans pain, un gâteau de pain à l'huile, une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Et il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Verset 28, puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla. Où c'est que ça s'est brûlé encore? À la croix, tout c'est à la croix, je reste à la croix. Vous verrez la suite. Ce fut le sacrifice de consécration. Les mains, écoutez bien mes frères et sœurs, il n'y a pas que le sang sur le pouce, il y a les mains qui sont le symbole bien sûr du service, les mains qui sont remplies de Christ. L'épaule nous parle de la force du Seigneur, le pain nous parle de l'humanité du Seigneur, mes mains sont, ma vie, elle est remplie de Christ. C'est là que commence la consécration. Après, on pourra mettre de l'huile et du sang sur les vêtements des sacrificateurs. C'est pour ça, mes frères et sœurs, n'allez pas au bout de la terre pour chercher quelqu'un qui a l'onction. L'onction, elle viendra comme ça. Il faut faire comme le Seigneur nous l'a demandé. Oui, je vais m'appliquer. Alors, bien sûr que j'ai tout résumé, mais mes frères et sœurs, c'est pas fini, bien sûr. Mais je voudrais que nous puissions dire, Seigneur, qu'un feu nouveau s'allume. Dans ma vie, Seigneur, il faut qu'il y ait ce feu nouveau. C'est pour ça. Alors pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, si au bout de 6 ans, est-ce que quelqu'un a compris? Dans le Deutéronome, chapitre 15, il y a une loi sur les esclaves. C'est une loi merveilleuse. Je voudrais qu'on termine avec cette belle loi. Vraiment. Au bout de 6 ans, vous savez, les esclaves, ils étaient achetés sur le marché. Vous le savez. Ils étaient achetés sur le marché. Vous trouviez des radis, des poulets. Et non mais c'était toujours le même prix, pour ainsi dire. Mais il y avait à côté, dans une partie aménagée, des esclaves. N'oubliez pas que le Seigneur prend cette image pour nous expliquer que nous étions perdus, des esclaves, des misérables. Nous étions perdus dans les griffes de l'ennemi et que le Seigneur, lui, il est venu nous racheter. Pas avec des dizaines de milliers d'euros, il est venu nous donner sa vie. Dans votre vie, vous savez la valeur qu'elle a aux yeux du Seigneur. Une vie, votre vie est inestimable. Donc Jésus a payé le grand prix. Les esclaves, ils arrivaient après chez les maîtres. Vous comprenez? Vous auriez été acheté par un maître. Vous êtes esclave. Allez, soyons sérieux. Vous êtes une esclave. On vous amène en Égypte. Vous êtes vendu. Vous êtes vendu, voilà. Donc, les esclaves, ils étaient achetés par des maîtres, des bons ou des mauvais. Et ils arrivaient à la maison. Ils ne connaissaient pas le maître. Regardez bien avec moi, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 15, verset 12. Si l'un de tes frères, hébreu, regardez comment c'est beau, mes frères et sœurs. Si un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il servira 6 années. Mais la 7e année, tu le verras libre de chez toi. Verset 16. Regardez bien. Mais regardez bien. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Si ton esclave te dit... Donc, 6 ans ont passé, c'est la 7e année. Si ton esclave te dit, je veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison... et qu'il se trouve bien chez toi. Alors tu prendras un poinçon, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Vous avez compris la fin de ma prédication? Au bout de quelques années, les premiers mois, la première année, on n'a peut-être pas forcément goûté que le Seigneur est bon, on a goûté qu'il donne des bienfaits, d'accord. Mais mes frères et sœurs, je te pose la question. On va prendre la Sainte-Cène, notre culte va se terminer bientôt. Est-ce que tu as goûté que le grand maître du ciel, il est vraiment bon? Vous savez, il y a des gens sur la terre qui sont bons, il y a des maîtres qui sont bons, la preuve. Il y a des maîtres qui sont bons, pleins de bonté. Bon, si des hommes sont capables d'être bons, est-ce que vous avez goûté la bonté du Seigneur? Alors, c'est pour ça que je vous dis, j'accepte le fait qu'il faille quelques années. On ne va pas se coller à la porte au bout de 3 jours, parce qu'on ne sait pas. Mais au bout de quelques années, est-ce que vous pouvez dire, oui, Dieu est bon. Je lui fais confiance. Comment je vois des chrétiens qui ont 30 ans, 40 ans de conversion, tout le temps en train de dire, je ne comprends pas, j'en ai marre, le Seigneur m'a abandonné. Moi, ça me fait mal au cœur. Hein. Que ce soit les premiers jours, les premiers mois, les 3 premières années, les 5 premières années, mais quand même, au bout d'un moment, on doit le connaître, notre Seigneur. Oui ou non? Au bout de quelques... Même si on ne connaît pas tout, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire, mais moi je suis bien, il m'aime, mon maître. Je sais qu'il m'aime. Je ne comprends pas tout, toutes mes épreuves, tout ça, je ne comprends pas tout. Mais ce n'est pas grave. Je sais qu'il m'aime. Et je resterai dans sa maison. Je resterai attaché à lui. La preuve, c'est que je veux qu'il y ait une marque sur mon oreille. Qui ce matin pourrait dire, mais moi, monsieur Gou, il y a longtemps qu'il y a le piercing, il y a longtemps qu'il y est. Qui peut dire ce matin, ne dites pas, ne levez pas la main, mais qui peut dire ce matin, au Seigneur, pas moi, est-ce que tu peux dire ce matin, écoute bien vraiment, parce que je crois que c'est le Seigneur qui te parle, est-ce que tu peux dire ce matin, oui, j'ai pas de boucle d'oreille et j'en mettrai pas, bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que ça serait pas sain du tout. Mais monsieur Gou, il y a longtemps que j'ai mis mon oreille sur la porte de la maison du Seigneur. Je sais qu'il m'aime. Je douterai jamais. Et je lui appartiendrai pour toujours. C'est mon joyeux service. T'appartenir. Le salut, ok, c'est réglé, c'est grandiose, c'est le grand sacrifice. Mais mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, est-ce que Dieu ce matin va trouver au milieu de nous quelqu'un qui va dire, mais c'est réglé comme du papier à musique. J'ai bloqué mon oreille sur la porte. Vous savez qui c'est la porte? C'est le Seigneur. Mon oreille, elle sera à côté de lui. Je serai marqué, pas que par le sang, mais moi aussi je serai marqué par cette affaire.
On va fermer les yeux quelques instants. Vous savez, comme je l'ai dit, le salut et la grâce, c'est une chose. Jérôme, s'il vous plaît, vous pouvez prendre un des frères. Vous savez, le salut, c'est une chose. Mais la sainteté, qui ce matin peut dire, Seigneur, je veux davantage de sainteté. Vous comprenez pourquoi j'ai pris ce verset? Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres? On va prendre le pain et le vin. Oui, ce petit morceau de pain, ce petit peu de vin, mes frères et sœurs, ça nous rappelle que notre Seigneur a été défiguré. Défiguré, ça veut dire qu'on n'osait pas le regarder tellement son visage était blessé. Vous vous rendez compte? Défiguré. Quand on l'a fouetté, on a certainement dû abîmer son visage. C'est la seule explication de ce mot. Vous vous rendez compte, on le présente sur la croix avec un peu de sang qui coule au niveau de la poitrine. Laissez-moi vous dire que ça ne devait pas être pareil. Défiguré. Nous l'avons défiguré. Qui ce matin veut dire oui, Jésus, Jésus, j'avancerai. Je veux une maison spirituelle. C'est ça que dit Pierre. Offrir à Dieu une maison spirituelle. Franchement, qui dans ce lieu? Écoutez bien, c'est sérieux, vous savez, c'est ça la flamme du Saint-Lieu. Qui ce matin peut dire, moi je veux faire des progrès. Je suis pas content de moi. Soyons vrais. Soyons vrais. Vous savez, le Seigneur, il vous aidera. Il ne peut pas ne pas vous aider. Mais ça va passer par la compréhension de la prérogative divine. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Pour le salut, oui. J'ai presque envie de dire, tu peux faire à peu près ce que tu veux, tu seras sauvé si tu ne pèches pas. Si tu ne vis pas volontairement dans le péché, tu seras sauvé, comme les Hébreux dans le désert. Mais si tu veux que la flamme descende, si tu veux l'onction, le sang appliqué, l'huile appliquée, laisse-moi te dire qu'il va falloir respecter ces quatre sacrifices. Je demande aux frères, aux sœurs qui ont donné leur vie à Jésus, qui veulent, comme moi, faire des progrès, de se lever en disant, Seigneur, oui, je t'ai demandé de m'expliquer la consécration. Plusieurs me l'aviez demandé. Eh bien voilà, vous l'avez eu. En partie peut-être, mais vous en avez suffisamment. Alors levons-nous, mes frères et sœurs, levons-nous avec un cœur joyeux. Vous préféreriez être ailleurs? Vous n'êtes pas bien ici, dans la maison du Seigneur? Vous pouvez dire, oui, je sais qui m'aime, mon maître. Et je t'assure, je ne suis pas prêt de sortir de sa maison. Ça risque pas. Je serai un esclave à vie. Il y a quelqu'un qui peut lui dire dans son cœur, Seigneur, moi aussi je serai un esclave à vie. Je suis trop bien dans ta maison, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous. Conduis-nous dans ce chemin béni. Afin, comme on l'a lu dans Pierre, l'honneur soit pour nous, Seigneur Jésus, dans ta gloire. Amen.